Bonjour à tous et bienvenue sur l'Odyssée d'Asie, le podcast pour découvrir l'Asie. Je m'appelle Brison Nuffel et je vous parle depuis Hanoï au Vietnam. Sur ce podcast, vous l'aurez compris, on va parler d'Asie, à travers des voyages, à travers des interviews ou à travers des conseils. Je vais vous expliquer pourquoi Taïwan est une destination incontournable, je vais vous partager les 5 erreurs que font la plupart des voyageurs avant un voyage au Vietnam, et je vais vous présenter des gens qui vivent en Asie et qui sont particulièrement inspirants.
Surtout s'ils me donnent de l'argent.
Pour rappel, je m'appelle Brice Van Nuffel, je tiens le blog worldwildbrice.net et je vis en Asie depuis 2013. Donc si vous êtes un fan d'Asie ou si vous voulez préparer un voyage en Asie, vous êtes arrivé au bon endroit. Ce que je vous conseille, c'est de monter dans le train, de bien vous installer et de profiter du podcast. Brice, pourquoi il n'y a pas eu de podcast pendant quelques mois? Parce qu'il y a quand même eu quelques pleines lunes et ça n'a rien passé. Ouais, alors je pourrais vous dire qu'en gros j'ai été super occupé, que j'ai le bébé, enfin maintenant qu'il n'est plus trop un bébé d'ailleurs, qui commence à courir partout, elle a un an et demi. J'ai fait quelques voyages, parfois il pleut, donc lorsqu'il pleut je ne peux pas enregistrer, il y a trop de bruit tout simplement. Mais je pense que la vérité c'est un peu un mélange de tout, parfois j'avais pas trop le temps, parfois j'avais pas trop la motivation. C'est vrai qu'enregistrer le podcast c'est aussi un peu difficile par moment. S'il y a trop de bruit à la maison ça fonctionne pas, si je suis pas dans le mood ça fonctionne pas, si je suis fatigué, le podcast est nul, où je parle beaucoup trop vite, donc il faut généralement que je prenne le temps pour que ce soit intéressant. Mais vous inquiétez pas, j'ai pas du tout envie d'abandonner le podcast pour une raison assez simple, c'est que j'ai souvent des retours de gens qui me disent « Hey, je t'ai connu sur le podcast » et qui connaissent pas le blog, ça me rend dingue, puisque le blog a 10 ans et demi maintenant, et que le podcast a 1 an et demi, mais je sais pas, pour une raison X ou Y, les gens me découvrent aussi par le podcast. Du coup, ça donne toujours un regain certain de motivation pour continuer le podcast. Je suis pas à court d'idées non plus, puisque j'ai encore pas mal de podcasts enregistrés pour vous aider à voyager au Vietnam. Et c'est d'ailleurs le thème de cet épisode une nouvelle fois. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler des marchés flottants. Pourquoi les marchés flottants? Bah tout simplement parce que c'est un truc que j'adore au Vietnam. C'est un point essentiel pour les voyageurs. C'est souvent d'ailleurs une grosse incompréhension. D'ailleurs, je fais une petite digression. Si je vous dis Canto, Chodok, Chavin, Longxuyen, et que ça ne vous dit rien, vous dites « mais qu'est-ce qu'il me raconte lui? C'est quoi ces mots ?» Vous n'êtes pas sur le bon épisode. Je vous invite à écouter l'épisode précédent, qui est une introduction au delta du Mekong et qui vous aidera à créer votre itinéraire dans le delta, à comprendre ce qu'est le delta. Aujourd'hui, je vais répondre à un problème tout bête qui est « dans quel marché flottant aller ?» Est-ce que le marché flottant de Kebe il est intéressant? Est-ce que le marché flottant de Nganam il est intéressant? Est-ce que Kanto ça vaut le coup? Quelle est la réalité sur place? Pourquoi cela? Puisque en mars 2023, donc il y a quelques mois, j'ai eu la chance de faire un nouveau voyage dans le delta du Mekong, le 17 millième voyage dans le delta du Mekong, et j'ai pu repasser par tous les marchés flottants. Je voulais absolument y aller et y retourner parce que c'était mon premier grand voyage après le Covid, après la pandémie. J'étais allé dans le delta plusieurs fois pendant la pandémie, mais pas après. Et du coup, je voulais aussi, moi, avoir un état de qu'est-ce qui s'est passé récemment. Quelques personnes m'avaient dit « Ah, tel marché flottant, il est moins intéressant, etc. » Mais j'ai tendance à croire personne. Moi, je vais voir de mes yeux pour pouvoir croire et pour pouvoir expliquer ensuite. Donc, le but de ce podcast, je vais vous parler des marchés flottants en général. Une rapide présentation. Et où est-ce qu'ils sont? Je vais vous faire un état des lieux de chaque marché flottant. Donc, si vous souhaitez comprendre « Ah, moi, je veux aller à tel marché flottant », bah écoutez cette seconde partie, c'est important. Je vais vous parler des 3 options qui sont encore réalistes pour les marchés flottants. Oui, il en reste que 3. Et encore, j'ai presque envie de le dire 2,5. Et enfin, je vais vous parler évidemment rapidement de quelques itinéraires si vous voulez intégrer un marché flottant. J'espère que tout est clair. C'était une introduction assez longue, mais il fallait que je couvre plusieurs sujets. Donc on va directement démarrer cet épisode et je vais vous faire une rapide introduction de ce que sont réellement les marchés flottants. Alors, pour comprendre les marchés flottants, il y a plusieurs points déjà dont il faut tenir compte. Le premier, c'est que tous les marchés flottants se visitent très rapidement. Ne planifiez pas un voyage dans le delta du Mekong juste pour voir un marché flottant. Honnêtement, vous allez être déçu à 100%. Même les plus grands marchés flottants, vous allez y passer peut-être une demi-heure en bateau, 45 minutes maximum. Une heure vraiment, le grand maximum. Donc une heure dans votre voyage, c'est rien. Donc ne gardez pas en tête que oui, vous allez y passer des heures, ça va être génial, etc. Non, ça ne va jamais être génial. Le second point à comprendre, c'est où est-ce que sont situés ces marchés flottants. Pour faire très simple, ils sont tous dans de très grandes villes ou à de grands carrefours d'échanges. Je prends un exemple tout bête. Mais Rungis, on l'a mis à côté de Paris parce qu'il y a le marché qui est énorme à côté où il y a des millions et des millions de personnes. C'est la même chose avec les marchés flottants. Typiquement, les grands marchés flottants ont été situés sur les bras principaux du Mékong. Par exemple, le marché flottant de Kanto, le marché flottant de Longsuyen qui était sur le Bassac, le marché flottant de Kaibé d'ailleurs qui était sur le bras principal du Mékong puisque le bras principal du Mékong passe à Kaibé. Je vous ai perdu sur les noms. Vous êtes au mauvais épisode, je le répète. L'épisode d'avant, vous allez tout comprendre. Donc, ces marchés sont sur les grandes parties du delta du Mékong ou au grand carrefour d'échange. C'était notamment le cas pour Nga Nam, pour Nga Bé, qui veulent littéralement dire en vietnamien 5 canaux ou 7 canaux. C'est-à-dire que c'est des villes où en fait se regroupent énormément de canaux et ça permet de facilement accéder à d'autres endroits du delta du Mékong. Ça, c'est la réalité des marchés flottants. Ils n'ont pas été conçus pour les touristes. Donc, quand vous êtes dans des zones qui sont sympas, faciles à organiser, pas trop loin de Saigon, je vais prendre un exemple comme Benche ou Mito. Ce n'est pas des lieux où c'était intéressant d'avoir un marché flottant. Du coup, il n'y a pas de marché flottant. Ce n'est pas partout dans l'état du Mékong qu'on trouve des marchés flottants. En fait, il en reste quelques-uns dans les grandes villes et dans les grands carrefours d'échange. L'autre point essentiel, et je viens de le mentionner, ça n'a pas été fait pour les touristes à la base. Alors, ça le devient de plus en plus, en étant réaliste, notamment à Kanto, dont on va parler bientôt. Mais c'est principalement des marchés de revente, de B2B. Pour faire très, très simple. Vous avez une plantation de... On va prendre des mangues, d'accord ? Vous avez des mangues dans le sud du Vietnam et vous avez, je ne sais pas, 30 hectares de mangues, d'accord ? Vous pouvez les vendre à des acheteurs qui vont être sur leur bateau. Donc le bateau va venir, c'est un mec, en gros, c'est l'équivalent d'un camion, mais flottant. Il va venir directement au bord de votre exploitation et vous allez lui vendre 300 kilos de mangues, d'accord ? Vous, il faut que vous les refourguiez, vous avez beaucoup de mangues, bah c'est la récolte, vous en avez beaucoup trop d'un coup, il faut les revendre. Donc vous les revendez à ce mec, souvent une famille d'ailleurs, la femme et le monsieur, qui vivent sur leur bateau et qui vont vous acheter 300 kilos de mangues. Ce bateau va partir de, je ne sais pas, on va prendre un exemple tout bête, une ville bizarre. Il va partir de Chaon par exemple, et il va retourner, lui, dans une grande ville où il y a un marché flottant, et il va retourner à Kanto. Lorsqu'il arrive à Kanto, il se met au milieu du marché flottant. Il met une espèce de grande tige de bambou avec une mangue au sommet pour expliquer aux autres acheteurs sur place « Hey, moi, je vends des mangues. » Et il attend. Il attend, il attend, il attend. Il faut qu'il refourgue toutes ces mangues. Il faut qu'il les refourgue rapidement, si possible, au meilleur prix, mais il va falloir qu'il vende tout avant de retourner à un autre endroit pour acheter, je sais pas moi, des noix de coco, des ananas, un peu ce que vous souhaitez. Et donc, le bateau attend. Et c'est là l'élément essentiel. Les bateaux de vendeurs, eux ne bougent pas. Ce sont les espèces de bateaux de taille moyenne que vous voyez souvent dans les marchés flottants. Par contre, ce qui va bouger, ça va être les acheteurs. Les acheteurs, c'est souvent des espèces de mamie ou papy, on va faire très cliché, ou plutôt des personnes de 40-50 ans, qui viennent avec leur barque, qui vont aller à un premier bateau, qui vont demander au mec « Hey, combien tu les vends tes mangues ?» Et le mec, il va dire « Bah, je les vends, si tu m'achètes 10 kilos, je te le vends ça, je sais pas moi, 50 euros. » Allez, ok. Et donc là, elle va acheter 10 kilos sur les 300 kilos, elle va les charger sur sa barque, et c'est là toute l'activité que vous voyez en fait sur les marchés flottants. C'est-à-dire qu'ils vont transvaser, la famille qui vend va balancer les ananas un par un, ils font une espèce de chaîne, qui vont repasser à la dame les récupère sur sa barque, etc. Et la dame continue. Elle va avoir un autre bateau, eux ils vendent, je sais pas moi, des pamplemousses, mais des watermelon, je me rappelle plus du nom en français, et ça va être la même chose. Ah non, bah lui il est trop cher, je continue, je vais en acheter un autre, je vais lui acheter 30 kilos, etc. Et donc les barques des acheteuses, elles vont passer d'un bateau à l'autre pour acheter ce dont elles ont besoin ou ils ont besoin. Lorsqu'ils ont fait leurs petites emplettes, ils vont revenir à terre et là, ils vont directement revendre ces fruits ou ces légumes dans leurs magasins, à des restaurants. Il y a 50 000 cas, je n'ai pas envie de faire de généralité. Mais si vous comprenez bien ce business, en fait, les bateaux qui vendent, eux, vont chercher la marchandise à un point A pour la vendre sur un marché flottant. Et ce sont les acheteurs ou acheteuses qui vont venir directement sur le marché flottant avec des barques plus petites pour acheter et pour revendre cette marchandise. Et ça, c'est vraiment la fonctionnalité d'un marché flottant. Et c'est important du coup de comprendre que ça n'a pas été fait pour les touristes à la base. Donc c'est principalement des acheteurs et des vendeurs. C'est un peu comme si vous alliez visiter Rungis, exactement, ou des grands marchés en Asie. C'est exactement ça. Ça n'a pas été fait pour les touristes. Et c'est pour ça que par moment, ce n'est pas parfait pour les touristes. C'est bon, vous avez compris les marchés flottants ? C'est une expérience très rapide. C'est principalement dans les grandes villes. Et c'est principalement pour du B2B. Maintenant, on va parler de tous les marchés flottants un par un, en commençant par le plus connu, Cai Rang à Kanto. On va maintenant parler de tous les marchés flottants. Il y en a 9, enfin plutôt, il Il y en avait 9, puisque la plupart sont tombés au combat. Vous allez comprendre très rapidement. Pour cet inventaire de ces 9 marchés flottants, je vais faire en fonction de leur importance, pas forcément de leur taille ou de leur intérêt, mais plutôt de quels sont ceux que vous voyez le plus souvent en ligne. C'est-à-dire si vous êtes un voyageur lambda et que vous cherchez Delta du Mekong, marché flottant, le premier qui tombe, c'est toujours Kairang à Kanto. Donc on va faire ça dans cet ordre-là, entre guillemets des plus connus aux moins connus. Le premier dont on va parler, c'est Kairang. Kairang, c'est le grand marché flottant de Kanto, Kanto qui est la capitale du Delta du Mekong, l'énorme ville. À Kanto, il y a 2 marchés flottants. Le plus connu, c'est Kairang, et il y en a un autre dans les faubourgs de Kanto qui s'appelle Fengxian, dont on va parler très bientôt. Kairang, pour faire très simple, c'était la garantie de voir un beau marché flottant jusqu'à la pandémie. En fait, c'était un grand marché flottant, puisque c'est une grande ville, beaucoup de vendeurs, pas mal d'acheteurs, pas mal de touristes aussi, mais vu qu'il y avait beaucoup d'activités, ça ne se voyait pas trop. Le marché est en gros dans la ville, pas forcément en centre-ville, il y a une petite demi-heure de bateau, mais c'est très facile d'y aller, tout est facilement organisable pour les touristes, même si vous ne parlez pas vietnamien, etc. Vous trouverez plein de gens pour vous y emmener. Maintenant, je dis été, etc. Les marchés flottants changent beaucoup. Lors de mon dernier passage en mars 2023, l'expérience était honnêtement assez nulle. À cela, plusieurs raisons. Il y en a pas mal qui sont expliquées sur le blog, dans mon dernier article sur le marché flottant de Kanto. Et en fait, le marché flottant de Kanto, les alentours, sont en pleine rénovation. À Kanto, en fait, ils luttent contre les inondations, ils luttent contre la montée des eaux, et ils ont complètement changé les quais autour du marché flottant de Kairang, ce qui fait que c'est beaucoup plus difficile d'accès pour les acheteurs, ce qui fait qu'ils doivent payer des gens en plus, etc. Donc ça devient beaucoup moins pratique. Donc en fait, lorsque je suis allé sur le marché flottant de Kairang, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait encore pas mal de vendeurs, moins qu'avant. Donc rappelez-vous, les vendeurs sont les gros bateaux qui ne bougent pas, remplis de fruits et de légumes. Mais j'ai eu l'impression, honnêtement j'en suis sûr, il y avait beaucoup moins d'acheteurs. Donc en fait, vous aviez des bateaux qui ne bougeaient pas et très peu de petites embarcations autour qui bougeaient. Ce qui fait que ça donne l'impression de visiter une sorte de musée. Les bateaux ne bougent pas, il n'y a pas beaucoup d'activités et honnêtement, bah vous tournez autour. Lorsque je dis tourner autour, c'est littéral, c'est-à-dire qu'en fait, les bateaux de touristes, surtout les gros bateaux, ceux avec les groupes de Vietnamiens ou les groupes de touristes étrangers, font des tours du marché flottant. Ce sont des gros bateaux, donc honnêtement, ce n'est pas très beau. Et tout le monde a ses gilets de sauvetage. Donc vraiment, c'est impossible de dire « Ah bah eux, ils sont peut-être du coin. » Non, ils ont des bateaux pour les touristes, ils ont leur gilet de sauvetage. Il y a la musique pour les Vietnamiens. Honnêtement, c'est un peu n'importe quoi. Et du coup, lorsque je suis retourné au marché flottant de Kairang, donc ce dernier passage en mars 2023, je me suis dit « Mais what the fuck, c'est quoi ce bordel ?» Parce qu'en fait, il y a beaucoup moins d'acheteurs, beaucoup moins d'activités, encore quelques vendeurs et beaucoup de touristes. Et en fait, vu qu'il n'y a pas cette activité réelle d'échange B2B, vous voyez beaucoup plus les touristes et l'expérience devient assez, pas catastrophique, mais vachement moins intéressante. Il faut voir Kairang comme une expérience le matin, en allant visiter aussi la fabrique de nouilles, etc. Il y a d'autres choses à visiter dans la zone autour de Kairang, mais le marché flottant était très clairement une déception. Alors, on va quand même en parler plus tard parce que c'est quand même un des seuls marchés flottants qui reste. Donc honnêtement, c'est quand même une des seules solutions que vous avez. Mais si vous allez à Kairang et que vous avez vu des photos d'il y a 4-5 ans sur le blog ou partout sur Internet, hein, lorsqu'on vous envoie les photos, ce n'est pas les photos de 2023. Ça, c'est clair et net. Donc n'en attendez pas trop. Vous serez sûrement surpris dans le bon sens. On vous dit « Ah bah, je m'attendais à pire que ça. » Surtout si vous avez un coup de chance et que pour une raison X ou Y, qu'il y a pas mal d'acheteurs. Surtout si vous y allez avant le tête ou ce genre de choses. Mais dans l'idée, n'espérez pas grand-chose du marché flottant de Kairang. Surtout si vous avez parlé avec des amis qui vont dire « Ah, moi j'étais au Vietnam en 2018, c'était super, etc. » Non, ce n'est plus super. Kairang, c'est le premier marché flottant que vous voyez souvent. Le deuxième, c'est Kaibe. Kaibe, c'est une ville assez touristique qui se trouve entre Saigon et Kanto, qui est souvent un arrêt sur la route du coup entre Saigon et Kanto. Il n'y a plus de marché flottant à Kaibe depuis des années. Depuis que je suis au Vietnam en 2016, je pense qu'il y avait encore 15 bateaux. Honnêtement, il n'y en a plus du tout. Oubliez Kaibe. Kaibe n'est plus un marché flottant. Si quelqu'un vous dit « Ah, il faut aller au marché flottant de Kaibe », vous savez qu'il n'y connaît rien et vous savez qu'il vous ment. Ouais, c'était rapide pour Kaibe. Honnêtement, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est, je pense, une des moins belles régions du delta du Mekong. Faites attention. Je sais qu'elle est pas mal. Il y a pas mal de gens sur le forum du Routard qui aiment bien la région de Kaibe. C'est une erreur. Kaibe ne devrait pas être un de vos arrêts. Sauf cas exceptionnel. Troisième marché flottant dont on va parler, Fengxian. Fengxian, en fait, c'est le nom d'un district. Mais je ne crois pas que c'est un district de Kanto. Je crois que c'est un district de Lozang, qui est la province juste à côté de Kanto. C'est en gros à peut-être 20 minutes de moto de Kairang, donc du grand marché flottant principal de Kanto. Vous faites 20 minutes de moto et vous arrivez à Fengxian. En bateau, ça prend pas mal de temps, donc faites attention, comptez pas moto et bateau en tant qu'équivalent. Fengxian, c'est vachement plus loin en bateau. Fengxian, ça a toujours été le marché B2C, entre guillemets, de Kanto. C'est-à-dire que c'est un marché où là, il y a beaucoup plus de petits acheteurs, on va dire. Il y a moins de gros bateaux, il y a beaucoup plus de petites barques où ça échange, etc. Visiblement, c'est un marché qui était assez intéressant il y a encore quelques années. Moi, je n'étais jamais allé, honnêtement, c'est le seul marché flottant où j'étais jamais allé. Et malheureusement, j'y suis allé là récemment. Je n'ai pas trouvé d'expérience mauvaise. J'y suis allé en mars. C'est même carrément très beau pour faire une photo. Parce qu'en fait, vous avez le lever de soleil qui se lève juste derrière les vendeurs et les vendeuses. C'est très photogénique. Le marché flottant se trouve juste en dessous d'un pont. Donc, il y a un grand pont qui passe. Vous pouvez faire des photos du dessus, etc. Par contre, le marché flottant se déroule littéralement en pleine nuit jusqu'au lever de soleil. Et lorsque j'y suis allé, je crois qu'on a compté 18 bateaux ou 19 bateaux. Alors, quand je dis bateaux, c'est même des barques. Hein. C'est un peu de tout. Donc, ça fait très léger. Est-ce que vous avez envie de vous lever à 4h du mat pour voir 18 barques qui échangent quelques légumes et fruits et qui disparaissent à 6h du matin? Pas évident. Si vous dormez dans la campagne de Fengxian, ça vaut le coup, parce que c'est quand même sympa à voir, je pense. Encore une fois, comme à Kerang, n'en attendez pas trop. Vous y allez, vous faites une photo, vous prenez un café, vous prenez des nouilles, et c'est tout. Vous avez vu le truc, c'est sympa, mais n'en espérez pas une expérience de dingue. Ça reste quand même un marché, alors j'ai pas envie de dire peut-être intéressant, c'est peut-être too much, mais ça reste un marché qui pourrait faire partie de votre programme, un marché flottant. J'ai pas trouvé ça horrible, moi. J'en attendais pas grand-chose et du coup, j'ai été agréablement surpris, surtout par la configuration des lieux qui est vraiment très, très, très photogénique. Donc, on vient de parler de Kairang, intéressant, mais très touristique et en grosse perte d'activité. On a parlé de Kaibe, qui est nul. On a parlé de Fengxian, qui est relativement intéressant, malgré une taille très, très modeste et qui peut fonctionner pour certains voyageurs. Maintenant, on va parler de Longsuyen. Longsuyen, qui est THE marché flottant à visiter en 2023. Longsuyen, ça a toujours été un de mes marchés flottants préférés, même avant la pandémie. C'était avec Ngana et Longsuyen, mes deux préférés. Le marché de Longsuyen a plusieurs avantages importants. Le premier, c'est que Longsuyen, c'est pas touristique du tout. C'est sur l'itinéraire de personne. Donc, il n'y a aucun touriste. Le second, c'est que Longsuyen, c'est une très grande ville. Donc, le marché flottant a gardé une taille assez significative. Et le troisième, c'est que le marché flottant de Longsuyen se trouve directement sur le bras principal du Mekong, sur le Basak, à cet endroit, ce qui fait que c'est aussi relativement photogénique. Lorsque je suis retourné à Longsuyen en 2023, c'était le dernier marché flottant que je visitais quasiment, et je me disais, putain, j'espère que ça va pas être comme les autres, ou bah avant c'était bien, maintenant c'est naze, ou maintenant ils n'existent même plus. Et bien en fait, j'étais agréablement surpris, il n'y a pas une activité de dingue à Longsuyen, mais ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment bien. Il reste beaucoup de bateaux de vendeurs, il reste quelques bateaux d'acheteurs. L'endroit est vraiment très beau. C'est facile à organiser, pareil, c'est en plein centre-ville à Longsuyen, c'est assez facile à organiser. Et c'est un marché flottant qui est vraiment, vraiment, vraiment très, très, très sympa. C'est THE marché flottant vraiment à visiter en 2023. Quand je dis THE marché flottant, Longsuyen, c'est pas évident à intégrer dans un itinéraire, donc ça fonctionne pas si vous avez que 2 jours et une nuit, par exemple. Mais si vous dites, ah non, on veut voir un beau marché flottant, on veut voir le plus beau, c'est Longsuyen, il n'y a aucune discussion possible. Encore une fois, si quelqu'un vous dit « Ah non, il faut aller à un autre », vous savez qu'il n'est pas allé récemment. C'est une certitude. Donc, on vient de parler de 4 marchés flottants. On va passer au cinquième, qui est Chodok. Chodok, il y a un marché flottant que si... Alors, Chodok, c'est une région que j'adore déjà. C'est la plus belle région du delta du Mekong. La plus belle de loin, d'accord. C'est Chodok et Arrest. Et pendant des années, j'ai fait la promotion de Chodok en parlant du petit marché flottant. Malheureusement, le marché flottant n'existe plus du tout. Il reste 2 bateaux, je crois, 3 bateaux sur les dernières photos que j'ai vues. Donc, plus de marché flottant. Avant, il y en avait 15. Donc, c'était pas énorme non plus. Je ne vais pas vous dire qu'il y avait des centaines de bateaux, loin de là. Mais ça faisait un petit arrêt sympa de 10 minutes le matin en faisant un autre tour à Chodok. J'aime beaucoup un tour en bateau. Maintenant, le marché flottant n'existe plus. Il n'y a plus rien. Donc, oubliez Chodok. Encore pour le marché flottant. Hein, mais sinon, allez à Chodok. Chodok, c'est ouf. Encore pire que ça, Ngannam. Ngannam, c'était le marché flottant le plus photogénique avant la pandémie. Genre, c'est là où j'ai fait mes plus belles photos. Ngannam, donc, qui veut dire les 5 canaux, c'est une petite ville à 1h30 de Kanto où 5 canaux se rejoignent et du coup, ça a toujours été un hub d'un point de vue des activités, d'un point de vue économique pour cette région. Et en fait, quand j'y suis retourné en 2023, bah, le marché flottant n'existe plus. Le marché flottant est à terre, tout bêtement. En fait, le marché flottant, maintenant, les bateaux vont directement se mettre au niveau d'un quai qui est légèrement à l'extérieur de la ville. Ils ont construit des espèces de petites huttes pour vendre leurs fruits et leurs légumes. Et en fait, elles sont directement au bord de la route. Donc, c'est très simple pour les gens qui ont des bateaux d'acheter les 300 kilos de mangue, de se déplacer jusqu'à Ngannam. Et là, au lieu d'être sur le bateau tout le temps non-stop, etc., et c'est chiant, bah, ils mettent le bateau directement à quai. Ils sortent les 300 kilos de mangue et ils peuvent les vendre directement à tous les camions qui vont venir, les petits camions qui vont venir acheter la marchandise. 10 fois plus simple, malheureusement, pour les pauvres voyageurs qui viennent. C'est horrible, parce qu'avant, le marché flottant était dingue, mais pour tous les gens qui sont sur leur bateau, la qualité de vie est quand même bien meilleure, c'est plus facile de faire du commerce, etc. etc. Ngannam demeure intéressant si vous êtes photographe, puisque c'est une ville très photogénique. Loin d'être parfaite maintenant, je ne vais pas vous dire qu'il faut absolument aller à Ngannam si vous avez 3 jours dans le delta du Mekong. Mais si vous avez une dizaine de jours et que vous traversez le delta du Mekong du nord au sud, de l'est à l'ouest, etc., un arrêt d'une nuit à Ngannam, ça fonctionne. Donc Ngannam, le marché flottant n'existe plus. C'est exactement la même chose à Kamo. Kamo, le marché flottant n'existe plus depuis des années et il fonctionne sur la même façon que Ngannam. Donc c'est plutôt Ngannam d'ailleurs qui a copié Kamo. Kamo qui est une grande ville au sud-ouest du delta du Mekong. C'est la dernière grande ville avant la pointe du Vietnam. Il y a d'ailleurs un aéroport là-bas. J'ai eu la chance d'y aller récemment. Le marché flottant de Kamo, c'est la même chose. En fait, vous avez 20 bateaux qui sont directement à quai, devant le grand marché flottant, devant le marché principal de Kamo. C'est pas très clair ce que je viens de dire là. Bon, imaginez un grand marché terrestre. Le marché normal, on vend des fruits, des légumes, de la viande, des vêtements, etc. qui est directement au bord d'un canal dans la ville de Kamo. Et bien sur ce canal, il y a 20 bateaux qui attendent, qui sont directement à quai. Et si vous voulez acheter des fruits et des légumes, vous achetez directement en passant. Aussi simple que ça, donc pareil, pas vraiment de marché flottant. Il reste 2 marchés flottants dont il faut parler, qui sont Ngabe et Chaon. J'ai un peu de vous dire, c'est ceux qui sont aussi tombés au combat. Ça fait des années qu'ils n'existent plus. Vous les verrez rarement parfois sur Internet. Donc Ngabe, c'est une ville qui est légèrement au sud de Kanto. Et Chaon, c'est une ville qui est... comment expliquer Chaon ? Plutôt à l'est de Kanto, qui est sur la route pour aller d'ailleurs jusqu'à Chavin. Bon, je m'arrête là. Je commence à vous sortir 50 000 villes du delta du Mekong. Je pense que j'ai perdu tout le monde. Donc je vais un peu éviter. On va directement passer sur un rapide résumé qui vont être les 3 options encore réalistes pour visiter un marché flottant dans le delta du Mekong. Brice, on n'a rien compris à tes villes. Tu nous as parlé de Chavin, tu nous as parlé de Kamo, tu nous as parlé de Ngabe. Moi, j'ai jamais entendu parler de ces endroits. Moi, je prépare mon voyage. J'arrive dans quelques mois au Vietnam. Je veux voir le delta du Mekong parce que tu as dit que c'était super. Où est-ce que je dois aller pour voir un marché flottant ? Eh bien, vous inquiétez pas. Vous avez 3 points à mettre sur Google Maps et après, ça va dépendre de votre itinéraire. Le premier point, c'est Kai Rang. Parce que même si l'expérience n'est pas géniale, parce que même si c'est beaucoup trop touristique, et qu'il y a 50 000 raisons de ne pas y aller, la réalité fait que Kanto est un des lieux incontournables du delta du Mekong du point de vue des transports et du point de vue de l'organisation. Donc il y a quand même de fortes chances que vous passiez par Kanto. Si vous allez par la suite à Kon Dao, si vous allez par la suite à Phukok, si vous partez plus dans le nord du delta du Mekong, si vous voyagez en bus, par exemple, puisque oui, c'est une grande ville, il y a beaucoup de transports, donc c'est facile d'accès. Lorsque vous irez à Kai Rang, gardez à l'esprit que le marché flottant risque d'être décevant, et imaginez votre matinée comme une matinée de visite, avec la fabrique de nouilles, avec des vergers, avec le marché terrestre de Kai Rang qui est super, plutôt que juste vous focaliser sur le marché flottant. J'aurais beaucoup aimé vous dire, n'allez pas au marché flottant de Kai Rang, c'est nul, moi je connaissais, c'était mieux avant, ah, il y a 20 ans, moi j'étais le premier à... J'aurais bien aimé vous faire ce genre de cliché assez typique qu'on voit en Asie lorsqu'on parle parfois avec des Français, mais je pense qu'en étant réaliste, la plupart des auditeurs du podcast, ou des lecteurs du blog, ou des deux, iront principalement à Kai Rang, parce que même si ça devient de moins en moins bien, ça reste quand même le choix le plus facile d'un point de vue organisation. La deuxième option possible, et c'est celle que je préconise vraiment pour ceux qui ont un peu de temps et qui veulent découvrir autre chose, c'est Long Xuyen. C'est de très loin le plus beau marché flottant actuellement. C'est pas parfait, attention. Les acheteurs et acheteuses sont principalement des acheteurs qui vont revendre encore une fois, donc vous n'avez pas l'impression d'avoir des mamies qui viennent acheter 3 pommes pour manger le midi. Non, c'est pas ça. Mais la configuration des lieux sur le bras principal du Mekong, le fait qu'il y ait beaucoup de bateaux de vendeurs, le fait qu'il y ait encore quelques acheteurs et le fait qu'il n'y ait au final pas de touristes du tout, fait qu'on en profite beaucoup plus. J'aurais pu avoir un avis similaire pour Kai Rang à Kanto, mais sauf qu'il y a, j'ai failli vous dire, des milliers de touristes, des centaines de touristes, des dizaines de bateaux. Du coup, difficile d'avoir un avis similaire. Long Xuyen a un énorme avantage, c'est qu'en fait, ce n'est pas touristique du tout. Ça reste facile à organiser. N'imaginez pas que c'est compliqué. Si vous allez sur le quai principal de Long Xuyen, tout est indiqué sur le blog. Hein, donc, n'hésitez pas à aller sur le blog worldwidebreeze.net Vietnam et vous verrez l'article. C'est hyper facile d'aller visiter le marché flottant de Long Xuyen. Tout comme Kai Rang à Kanto, Long Xuyen est juste à côté du marché flottant, possède un marché terrestre absolument sublime. Très beau. Donc si vous faites de la photo, le combo marché flottant Long Xuyen, marché terrestre de Long Xuyen juste après, ça ne vous prend pas des heures, ça va vous prendre je pense 2 heures, 2 heures et demie max. Il fait super chaud rapidement, etc. Mais c'est le numéro 1 de très loin. J'ai mis quand même l'onxienne en option numéro 2 pour la bonne et simple raison que l'onxienne, c'est plus compliqué à organiser, plus compliqué si vous avez moins de temps, etc. Donc je pense qu'en étant réaliste, Kairang sera toujours le numéro 1. Troisième marché flottant encore visitable, c'est Fengxian. Puisque même si c'est tout petit, même s'il y a 1000 raisons de ne pas y aller, si vous êtes un voyageur qui n'a pas trop de temps, que vous ne faites pas de moto, que vous allez à Kanto et que vous aimeriez dormir dans la campagne et que vous vous trouvez dans un hôtel pas trop loin de Fengxian, vous irez sûrement une matinée à Kairang et vous irez sûrement la seconde matinée à Fengxian. Très différent, mais ça fait une belle photo, ça fait une expérience sympa, le marché a une vibe un peu différente. Il y a quelques touristes, mais qui sont principalement des touristes occidentaux, puisque les Vietnamiens ne vont pas à Fengxian, c'est trop loin, ça prend trop de temps, ils dorment généralement dans la ville et pas à l'extérieur. Mais lorsque vous êtes un touriste étranger, donc typiquement un Français, le Français classique, moi j'ai 2 semaines au Vietnam, je veux découvrir les incontournables tout en sortant des sentiers battus, je veux les hôtels de charme et pas des grands hôtels internationaux. Bon, en fait, vous avez forcément quelques chances de vous retrouver dans des hôtels à l'extérieur de Kanto, dans la campagne, qui sont d'ailleurs super sympas. Et là, vous pourriez directement aller jusqu'à Fengxian. Tous les autres marchés flottants n'ont aucun intérêt en tant que marché flottant. Ça peut être des expériences sympas. Vous pourriez me dire, oui, mais à Kaibé, il y a des belles maisons, des belles anciennes maisons. C'est vrai. Oui, mais à Chodok, la région, elle est incroyable. C'est vrai. Oui, mais à Nganage, c'est vrai. Tout est vrai. Mais il n'y a plus de marché flottant. Les trois seules options, c'est Kairang, Longxian, Fengxian. Donc les deux sont les deux à Kanto, une à Longxian. Trois grandes villes. Il n'y a plus de marché flottant dans les petites campagnes. Et n'hésitez pas à aller dans un de ces trois. Mais moi, je vous recommande vraiment Longxian si vous voulez une expérience sympa. D'ailleurs, je dis une expérience sympa, il faudrait peut-être que j'insiste encore une fois, alors qu'il se met à pleuvoir, j'espère qu'on n'entend pas sur le podcast, mais ça reste une heure de visite, quoi. Encore une fois, le delta du Mekong est une zone formidable, il y a 1 milliard de trucs à voir, il ne faut pas résumer le delta du Mekong à un marché flottant, c'est la meilleure façon de se planter. Le podcast est quasiment terminé, maintenant on va parler rapidement de quelques itinéraires pour intégrer les marchés flottants. Du coup, pour les itinéraires, ça va être assez simple, vu qu'il ne reste que 3 marchés flottants et que 200 à Kanto, c'est quand même assez simple à comprendre. Le top du top, la Rolls-Royce, si vous avez en gros 3 ou 4 nuits dans le delta du Mekong, partez de Saigon, prenez un bus directement jusqu'à Longxian, ne passez pas par Kanto. Vous arriverez à Longxian, Longxian n'a pas grand-chose à offrir dans l'après-midi, donc vous pouvez partir en milieu de journée, ça ne pose pas de problème, ça reste une ambiance sympa en fin de journée. Le lendemain matin, vous vous levez très tôt, vous êtes à 6h, 6h15, au niveau du quai principal de Longxian, vous prenez un petit bateau, vous allez vous balader sur le marché flottant. Ça va vous prendre, je sais pas, peut-être une demi-heure, 45 minutes. Vous revenez à quai, vous faites un arrêt peut-être pour un café ou pour un petit déj. Si vous êtes photographe, vous refaites un second tour du marché flottant de Longxian, puisque les lumières auront changé et que ça deviendra super sympa. Sinon, vous faites directement le marché terrestre qui est très beau. Prenez le temps, prenez votre petit déj dans le marché flottant peut-être. N'oubliez pas, il y a des comtam et ce genre de choses. Prenez un jus, prenez un café. Profitez de l'ambiance, le marché terrestre de Longxian est aussi très beau. Vous reviendrez sûrement à votre hôtel sur les coups de 10-11 heures. Et oui, c'est rapide, les hôtels sont aussi pas trop loin du marché flottant et du marché terrestre. Et vous prenez directement votre transport jusqu'à Chodok. Chodok qui est pas très loin, puisque Longxian et Chodok sont dans la même province, la fameuse province de Lanzhong que j'adore. Et donc du coup, ça va vous prendre, j'ai pas en tête, je crois que c'est 1h30. 2 heures peut-être max, mais je pense que c'est 1h30. Pour aller jusqu'à Chodok. Chodok où vous passerez peut-être 2-3 nuits. Ça dépend, mais c'est une très belle région. Ensuite, vous pouvez revenir jusqu'à Saigon, pas mal de transports, mais c'est au moins la Rolls-Royce du delta du Mekong. Sinon, vous pouvez passer directement jusqu'à Phnom Penh. Il y a des bateaux entre Chodok et Phnom Penh. Sinon, vous pouvez continuer vers Hat Yen, qui est à 2 heures de Chodok, pour aller jusqu'à la plage de Phu Quoc, ou pour passer au Cambodge, vers Kep et Kampot. D'accord ? Donc, une nuit à Longxian, le reste à Chodok, c'est, je pense, le mieux. Surtout si vous avez 4 nuits, 3 nuits, c'est le plus beau. Et c'est la plus belle partie du delta du Mekong. Vous verrez sur une carte qu'en fait, vous n'allez pas voir 50 000 trucs du delta du Mekong d'un point de vue des régions, mais vous allez vous focaliser sur la plus belle région. Et donc, c'est un peu l'idéal en tant que voyageur. Oh, je vais devoir le couper au montage, je viens d'éternuer. J'ai cru que j'allais me... Ça va beaucoup mieux. Alors, pour être réaliste, cet itinéraire, ce ne sera pas pour tout le monde. Vous allez quand même être de nombreux voyageurs, de nombreuses personnes, je vais y arriver, à me dire « Oui, mais nous, on est en famille. Oui, mais nous, on n'a pas beaucoup de temps. Oui, mais nous, on... Il y a 50 000 raisons. Oui, mais nous, on veut aller à Kondao après. » Du coup, c'est ce que j'ai expliqué avant. Bah, vous irez jusqu'à Kanto. Vous allez aller jusqu'à Kairang. Vous voyez ça comme une balade matinale plutôt qu'une visite d'un marché flottant. Faites les trucs ensemble. Et vous allez forcément être un peu déçu du marché flottant, mais sur un coup de chance, avec les bonnes activités, une mamie qui vous fait un sourire, ce genre de choses, vous allez quand même en profiter. Ça, c'est la seconde option. Kanto, vous y passerez forcément. Après, vous donnez un itinéraire qui passe par Kanto, c'est difficile de vous dire faut aller là. J'en ai parlé déjà longuement dans l'épisode précédent. Et Kanto a une place tellement centrale dans l'état du Mekong que, honnêtement, c'est très facile à intégrer. L'autre point, évidemment, c'est si ce que je viens de vous dire avec Longxian, Chuseok, etc., ça vous paraît compliqué, n'hésitez pas à rejoindre Kanto. N'hésitez pas à dormir dans la campagne, c'est ce que je vous ai dit. Vous ferez deux matinées sûrement, une au marché flottant de Kairang, une au marché flottant de Fengxian. D'ailleurs, je parle souvent de très tôt, de 5h du matin, 6h du matin, etc. C'est nécessaire pour découvrir le delta du Mekong. Le delta du Mekong se découvre très tôt le matin et en fin de journée, lorsqu'il fait moins chaud. Si vous allez dans un marché flottant à midi, évidemment, plus personne. Donc j'espère que c'est assez clair pour les itinéraires. J'ai honnêtement pas envie de vous parler pendant 10 minutes des itinéraires, c'est hyper simple. Soit vous allez à Longxian, soit vous allez à Kanto. Idéalement, vous allez à Longxian et vous combinez avec Chuseok. Sinon, si vous allez à Kanto, il y a un milliard de raisons d'y aller pour les transports, etc. Et c'est très facile à organiser. On va faire une petite conclusion maintenant. En fait, en enregistrant ce podcast, je me suis rendu compte d'un truc. C'est que peut-être qu'en l'écoutant, vous dites « Mais pourquoi on va dans un marché flottant ?» Et cette question, elle est assez réaliste. En fait, le delta du Mékong, c'est une zone magnifique. C'est une zone où il y a plein de choses à voir. Et c'est une zone qui est souvent mal comprise par tout le monde, que ce soit les agences qui la vendent, que ce soit les voyageurs, etc., etc. C'est une zone hyper compliquée. Dans la réalité, vous n'avez pas besoin de forcément passer par un marché flottant dans le delta du Mékong pour en profiter. Si vous allez à Chuseok, si vous allez à Chavin, il n'y a pas de marché flottant. Ce sont des zones magnifiques, ce sont des zones où il y a beaucoup de choses à voir. Évidemment, vous pouvez intégrer un marché flottant, mais surtout, il faut aller dans le delta du Mekong parce que vous avez envie d'y aller, parce que ça vous donne envie, parce que c'est la bonne saison, parce que vous allez voir du riz, parce que toutes les raisons sauf le marché flottant. Parce que si vous allez dans le delta du Mekong pour un marché flottant, vous serez fondamentalement déçu. Si vous avez très peu de temps et que vous dites « Mais attends, moi, Brice, j'ai que deux jours, quoi. J'ai deux nuits, on est en famille, on a envie de limiter les transports, etc. » Vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'à Kanto ou à Longxian. Vous pouvez aller au Mekongum, par exemple, à Benche. Vous pouvez aller au Coco Riverside Lodge à Vungliem. Il y a 50 000 hôtels, d'ailleurs, autour de Benche et dans la campagne, à en gros 2 heures de Saigon. Vous trouverez plein d'options. Vous profiterez de la ville le matin. Vous irez dans un marché terrestre où il n'y aura pas de touristes, où les mamies vont vous faire des sourires. Vous allez vous faire des balades en bateau. Vous allez vraiment en profiter. Le marché flottant, c'est la cerise sur le gâteau d'une visite dans le delta du Mekong. Et ce n'est pas forcément incontournable. Ce sera vraiment la conclusion. Oubliez tout ce que vous avez lu sur du contenu qui est avant le Covid. Depuis la pandémie, beaucoup de choses ont évolué. Pas forcément d'ailleurs à cause de la pandémie. C'est juste qu'au fil des années, les marchés flottants disparaissent. C'est naturel, il y a de moins d'activités, etc. Il reste 3 marchés flottants à visiter. Kairang et Fengxian à Kanto et Longxian. Longxian étant le meilleur. Si vous vous dites ouais, « c'est la galère, je ne vais jamais y arriver », etc. Il n'y a aucune honte à ne pas voir un marché flottant dans le delta. J'insiste là-dessus. D'ailleurs, c'est peut-être en tant que voyageur, et je vais un peu comparer avec mon expérience, quand on attend beaucoup de choses d'un endroit, on est souvent déçu. Et à l'opposé, lorsqu'on n'attend rien d'une visite, moi je vais aller à Chuseok, je m'en fous, ok, bon, il a dit que c'est sympa, je vais y aller. Et par contre, moi je voulais vraiment voir le marché flottant. Il y a de fortes chances que vous soyez déçu par le marché flottant et très surpris par une autre région. Donc vraiment, c'est un point essentiel. Les marchés flottants sont intéressants, mais si vous vous faites... Est-ce que je vais être très direct et honnête? Oui, je vais être très honnête et direct. Si vous vous dites, moi j'ai 2 jours et une nuit, j'ai qu'une nuit et je vais faire Saigon, Kaebe, Kanto, dormir à Kanto pour voir le marché flottant et repartir, honnêtement c'est naze, faites pas ça. Ça n'a que peu d'intérêt désormais. J'espère que tout a été clair pour ces marchés flottants. Vous avez beaucoup d'articles sur le delta du Mekong et sur les marchés flottants directement sur le blog. Donc vous tapez World Wild Brice Vietnam, vous tapez Brice Vietnam, n'importe quoi sur Google, vous trouverez généralement tous les articles et toute la catégorie. N'hésitez pas si vous avez la moindre question. Ne m'envoyez pas de DM sur Instagram ou sur Facebook, j'y réponds rarement. Par contre, vous pouvez laisser des commentaires sur le blog. Vous avez une question sur Longxian, où est-ce que c'est le bateau, où est-ce qu'on le prend? Mettez un commentaire sur le blog. Vous avez une question sur l'heure à laquelle il faut partir pour le marché terrestre, le marché flottant de Kanto? Mettez sur le blog. D'ailleurs, je vous dis mettez sur le blog. En fait, vous verrez déjà les réponses dans les commentaires, puisque si vous posez la question, il y a souvent d'autres voyageurs qui se la sont posées avant, et j'ai sûrement déjà répondu. Donc n'hésitez pas à me contacter là-dessus. Encore une fois, désolé pour le retard sur les publications. Il y a eu quelques pleines lunes sans épisode de podcast, mais ça devrait repartir normalement pour les prochaines pleines lunes. Donc moi, je vous dis à la prochaine pleine lune pour un nouvel épisode du podcast.